Chapitre 15, la procession, Chico Ier. Aussitôt la collation finie, le roi était rentré dans sa chambre avec Chico pour y prendre ses habits de pénitent, et il en était sorti un instant après, les pieds nus, les reins ceints d'une corde et le capuchon rabattu sur le visage. Pendant ce temps, les courtisans avaient fait la même toilette. Le temps était magnifique, le pavé jonché de fleurs. On parlait de reposoirs plus splendides les uns que les autres, et surtout de celui que les Génovais fins avaient dressé dans la crypte de la chapelle. Un peuple immense bordait le chemin qui conduisait aux quatre stations que devait faire le roi et qui était aux Jacobins, aux Carmes, aux Capucins et aux Génovais fins. Le clergé de Saint-Germain-l'Auxerrois ouvrait la marche. L'archevêque de Paris portait le Saint-Sacrement. Entre le clergé et l'archevêque marchaient à reculons des jeunes garçons qui secouaient les encensoirs et des jeunes filles qui effeuillaient des roses. Puis venait le roi, les pieds nus comme nous avons dit, et suivi de ses quatre amis, les pieds nus comme lui et enfroqués comme lui. Le duc d'Anjou suivait, mais dans son costume ordinaire. Toute sa cour angevine l'accompagnait, mêlée aux grands dignitaires de la couronne qui marchaient à la suite du prince, chacun gardant le rang que l'étiquette lui assignait. Et puis enfin venaient les bourgeois et le peuple. Il était déjà plus d'une heure de l'après-midi lorsqu'on quitta le Louvre. Crillon et les gardes françaises voulaient suivre le roi, mais celui-ci leur fit signe que c'était inutile, et Crillon et les gardes demeurèrent pour garder le palais. Il était près de 6 heures du soir, quand, après avoir fait ses stations aux différents reposoirs, la tête du cortège commença d'apercevoir le porche dentelé de la vieille abbaye, et les Génovais fins, le prieur en tête, disposés sur les 3 marches qui formaient le seuil pour recevoir sa majesté. Pendant la marche qui séparait l'abbaye de la dernière station, qui était celle que l'on avait faite au couvent des Capucins, le duc d'Anjou, qui était sur pied depuis le matin, s'était trouvé mal de fatigue. Il avait alors demandé au roi la permission de se retirer dans son hôtel, permission que le roi lui avait accordée. Ces gentilshommes s'étaient alors détachés du cortège et s'étaient retirés avec lui, comme pour indiquer bien hautement que c'était le duc qu'il suivait et non le roi. Mais le fait était que, comme 3 d'entre eux devaient se battre le lendemain, ils désiraient ne pas se fatiguer outre mesure. À la porte de l'abbaye, le roi, sous prétexte que Caylus, Maugiron, Schomberg et d'Épernon n'avaient pas besoin de moins de repos que Livaro, Ribérac et Entraguet, le roi, disons-nous, leur donna congé aussi. L'archevêque, qui officiait depuis le matin et qui n'avait encore rien pris, non plus que les autres prêtres, tombait de fatigue. Le roi a pris pitié de ces saints martyrs et, arrivé, comme nous l'avons dit, à la porte de l'abbaye, il les renvoya tous. Et puis, se retournant vers le prieur Joseph Foulon, « Me voici, mon père, dit-il en nasillant, je viens, comme un pécheur que je suis, chercher le repos dans votre solitude. » Le prieur s'inclina. Alors, s'adressant à ceux qui avaient résisté à cette rude journée et qui l'avaient suivi jusque-là, « Je vous remercie, messieurs, dit-il, allez en paix. » Chacun salua respectueusement, et le royal pénitent monta une à une, en se frappant la poitrine, les marches de l'abbaye. À peine Henri avait-il dépassé le seuil de l'abbaye que les portes en furent fermées derrière lui. Le roi était si profondément absorbé dans ses méditations qu'il ne parut pas remarquer cette circonstance, qui d'ailleurs, après le congé donné par lui à sa suite, n'avait rien d'extraordinaire. « Nous allons d'abord, dit le prieur au roi, conduire votre majesté dans la crypte que nous avons ornée de notre mieux en l'honneur du roi, du ciel et de la terre. » Le roi se contenta de répondre par un geste d'assentiment et marcha derrière le prieur. Mais aussitôt qu'il fut passé sous la sombre arcade où se tenaient immobiles 2 rangées de moines, aussitôt que l'on eut vu tourner l'angle de la cour qui conduisait à la chapelle, 20 capuchons sautèrent en l'air et l'on vit resplendir dans la demi-teinte des yeux étincelants de la joie et de l'orgueil du triomphe. Certes, ce n'étaient point là des figures de moines paresseux et poltrons. La moustache épaisse, le teint basané, dénotaient chez eux la force et l'activité. Bon nombre démasquaient des visages sillonnés de cicatrices, et à côté du plus fier de tous, de celui qui portait la cicatrice la plus illustre et la plus célèbre, apparaissait, triomphante et exaltée, la figure d'une femme couverte d'un froc. Cette femme agita alors une paire de ciseaux d'or qui pendait d'une chaîne nouée à sa ceinture et s'écria « Ah, mes frères, nous tenons enfin le Valois !»« Ma foi, ma sœur, je le crois comme vous, » répondit le balafré. « pas encore, » murmura le cardinal. « Comment cela ?»« Oui, aurons-nous assez de troupes bourgeoises pour maintenir Crillon et ses gardes ?» Nous avons mieux que des troupes bourgeoises, répliqua le duc de Mayenne, et croyez-moi, il ne sera pas échangé un seul coup de mousquet. Voyons, dit la duchesse de Montpensier, comment entendez-vous cela? J'aurais cependant bien voulu un peu de tapage, moi. Eh bien, ma sœur, je vous le dis à regret, vous en serez privée. Quand le roi sera pris, il criera, mais nul ne répondra à ses cris. Nous lui ferons alors, par persuasion ou par violence, mais sans nous montrer, signer une abdication. Aussitôt l'abdication courra la ville et disposera en notre faveur les bourgeois et les soldats. Le plan est bon et ne peut échouer maintenant, dit la duchesse. Il est un peu brutal, fit le cardinal de Guise en secouant la tête. Le roi refusera de signer l'abdication, ajouta le balafré. Il est brave, il aimera mieux mourir. « Qu'il meure alors !» s'écrièrent Mayenne et la duchesse. « Non pas, » répliqua fermement le duc de Guise, « non pas. Je veux bien succéder à un prince qui abdique et que l'on méprise, mais je ne veux pas remplacer un homme assassiné que l'on plaindra. D'ailleurs, dans vos plans, vous oubliez monsieur le duc d'Anjou, qui, si le roi est tué, réclamera la couronne. » Qu'il réclame, mon Dieu, qu'il réclame, dit Mayenne. Voici notre frère le cardinal qui a prévu le cas. Monsieur le duc d'Anjou sera compris dans l'acte d'abdication de son frère. Monsieur le duc d'Anjou a eu des relations avec les Huguenots et il est indigne de régner. Avec les Huguenots, êtes-vous sûr de cela? Pardieu, puisqu'il a fui par l'aide de roi de Navarre. Bien. Puis une autre clause en faveur de notre maison suit la clause de déchéance. Cette clause vous fera lieutenant du royaume, mon frère. De la lieutenance à la royauté, il n'y a qu'un pas. Oui, oui, dit le cardinal, j'ai prévu tout cela, mais il se pourrait que les gardes françaises, pour s'assurer que l'abdication est bien réelle et surtout bien volontaire, forçassent l'abbaye. Crillon n'entend pas la raillerie, et il serait homme à dire au roi « Sire, il y a danger de la vie, c'est bien, mais avant tout son vol honneur. » Cela regardait le général, dit Mayenne, et le général a pris ses précautions. « Nous avons ici, pour soutenir le siège, 80 gentilshommes, et j'ai fait distribuer des armes à 100 moines. Nous tiendrons un mois contre une armée, sans compter qu'en cas d'infériorité, nous avons le souterrain pour fuir avec notre proie. » Et que fait le duc d'Anjou dans ce moment? À l'heure du danger, il affaiblit comme toujours. Le duc d'Anjou est rentré chez lui, où il attend sans doute de nos nouvelles entre Bussy et Montsoreau. Mon Dieu, c'est ici qu'il faudrait qu'il fût, et non chez lui. Je crois que vous vous trompez, mon frère, dit le cardinal. Le peuple et la noblesse eussent vu dans cette réunion des deux frères un guet-apens contre la famille. Comme nous le disions tout à l'heure, nous devons, avant toute chose, éviter de jouer le rôle d'usurpateur. Nous héritons, voilà tout. En laissant le duc d'Anjou libre, la reine-mère indépendante, nous nous faisons bénir de tous et admirer de nos partisans, et nul n'aura le plus petit mot à nous dire. Sinon, nous aurons contre nous Bussy et cent autres épées fort dangereuses. Ah, Bussy se bat demain contre les mignons. Pardieu, il les tuera, la belle affaire, et ensuite il sera des nôtres, dit le duc de Guise. Quant à moi, je le fais général d'une armée en Italie, où la guerre éclatera sans nul doute. C'est un homme supérieur et que j'estime fort que le seigneur de Bussy. Et moi, à preuve que je ne l'estime pas moins que vous, mon frère, si je deviens veuve, dit la duchesse de Montpensier, moi, je l'épouse. L'épouser, ma sœur, s'écria Mayenne. « Tiens, dit la duchesse, il y a de plus grandes dames que moi qui ont fait plus pour lui, et il n'était pas général d'armée à cette époque. »« Allons, allons, dit Mayenne, nous verrons tout cela plus tard. À l'œuvre maintenant. »« qui est près du roi ?» demanda le duc de Guise. « Le prieur est le frère Gorenflot, à ce que je crois, » dit le cardinal. « Il faut qu'il ne voie que des visages de connaissance. Sans cela, il s'effaroucherait tout d'abord. » « Oui, » dit Mayenne, « mangeons les fruits de la conspiration, mais ne les cueillons pas. »« Est-ce qu'il est déjà dans la cellule ?» dit Madame de Montpensier, impatiente de donner au roi la troisième couronne qu'elle lui promettait depuis si longtemps. « Oh, non pas, il verra d'abord le grand reposoir de la crypte, et il adorera les saintes reliques. Ensuite, le prieur lui adressera quelques paroles sonores sur la vanité des biens de ce monde. » Après quoi, le frère Gorenflot, vous savez, celui qui a prononcé ce magnifique discours pendant la soirée de la Ligue. Oui, eh bien, le frère Gorenflot essayera d'obtenir de sa conviction ce que nous répugnons d'arracher à sa faiblesse. Non, en effet, cela vaudrait infiniment mieux ainsi, dit le duc rêveur. Bah, Henri est superstitieux et affaibli, dit Mayenne. Je réponds qu'il cédera à la peur de l'enfer. « Et moi, je suis moins convaincu que vous, » dit le duc, « mais nos vaisseaux sont brûlés, il n'y a plus à revenir en arrière. Maintenant, après la tentative du prieur, après le discours de Gorenflot, si l'un et l'autre échouent, nous essaierons du dernier moyen, c'est-à-dire de l'intimidation. « Et alors je tondrai mon valois, » s'écria la duchesse, revenant toujours à sa pensée favorite. En ce moment, une sonnette retentit sous les voûtes assombries par les premières ombres de la nuit. « Le roi descend à la crypte, » dit le duc de Guise. « Allons, Mayenne, appelez vos amis et redevenons moines. » Aussitôt, les capuchons recouvrirent fronts audacieux, yeux ardents et cicatrices parlantes. Et puis, 30 ou 40 moines, conduits par les trois frères, se dirigèrent vers l'ouverture de la crypte. Le roi était plongé dans un recueillement qui promettait un succès facile au projet de messieurs de Guise. Il visita la crypte avec toute la communauté, baisa la châsse et termina toutes les cérémonies en se frappant la poitrine à coups redoublés et en marmottant les psaumes les plus lugubres. Le prieur commença ses exhortations que le roi écouta en donnant les mêmes signes de contrition fervente. Enfin, sur un geste du duc de Guise, Joseph Foulon s'inclina devant Henri et lui dit « Sire, vous plairait-il de venir maintenant déposer votre couronne terrestre aux pieds du Maître éternel ?»« Allons, » répliqua simplement le roi. Et aussitôt, toute la communauté, formant la haie sur son passage, s'achemina vers les cellules dont on entrevoyait à gauche le corridor principal. Henri semblait très attendri. Ses mains ne cessaient de battre sa poitrine, le gros chapelet qu'il roulait vivement sonnait sur les têtes de mort en ivoire suspendues à sa poitrine. On arriva enfin à la cellule. Au seuil se carrait Gorenflot, le visage enluminé, l'œil brillant comme une escarboucle. « Ici ? » fit le roi. « Ici même, » répliqua le gros moine. Le roi pouvait hésiter, en effet, parce que, au bout de ce corridor, on voyait une porte, ou plutôt une grille, assez mystérieuse, ouvrant sur une pente rapide et n'offrant à l'œil que de ténèbres épaisses. Henri entra dans la cellule. « Hic portus saluti ?» murmura-t-il de sa voix émue. « Oui, » répondit Foulon, « ici est le port. »« Laissez-nous, » fit Gorenflot avec un geste majestueux. Et aussitôt, la porte se referma, les pas des assistants s'éloignèrent. Le roi, avisant un escabeau dans le fond de la cellule, s'y plaça les deux mains sur les genoux. « Ah, te voilà, Hérode, te voilà, païen, te voilà, Nabucodonosor !» dit Gorenflot sans transition, en appuyant ses épaisses mains sur ses hanches. Le roi sembla surpris. « Est-ce à moi que vous parlez, mon frère ?» « Oui, c'est à toi que je parle, et à qui donc? Peut-on dire une injure qui ne te soit pas convenable ?»« Mon frère, » murmura le roi, « bah, tu n'as pas de frère ici. Voilà assez longtemps que je médite un discours, tu l'auras. Je le divise en trois points, comme tout bon prédicateur. D'abord, tu es un tyran, ensuite, tu es un satyre, enfin, tu es un détrôné. Voilà sur quoi je vais parler. » « Détrôné, mon frère ?» dit avec explosion le roi perdu dans l'ombre. ni plus ni moins, ce n'est pas ici comme en Pologne, et tu ne t'enfuiras pas. Un guet-apens ? Oh, Valois, apprends qu'un roi n'est qu'un homme, lorsqu'il est homme encore. Des violences, mon frère ? Pardieu, crois-tu que nous t'emprisonnions pour te ménager ? Vous abusez de la religion, mon frère. Est-ce qu'il y a une religion ? S'écria Gorenflot. Oh, fit le roi, un saint dire de pareilles choses. Tant pis, j'ai dit. Vous vous damnerez. Est-ce qu'on se damne ? Vous parlez en mécréant, mon frère. Allez, pas de capucinade, es-tu prêt, Valois ? À quoi faire ? À déposer ta couronne. On m'a chargé de t'y inviter. Je t'y invite. Hé, vous faites un péché mortel. Oh, fit Gorenflot, avec un sourire cynique, j'ai droit d'absolution, et je m'absous d'avance. Voyons, renonce, frère Valois. À quoi ? Au trône de France. Plutôt la mort. Eh, mais tu mourras alors. Tiens, voici le prieur, il revient. Décide-toi. J'ai mes gardes, mes amis, je me défendrai. C'est possible, mais on te tuera d'abord. Laisse-moi au moins un instant pour réfléchir. Pas un instant, pas une seconde. Votre zèle vous emporte, mon frère, dit le prieur, et il fit de la main un signe qui voulait dire au roi, « Sire, votre demande vous est accordée. » Et le prieur referma la porte. Henri tomba dans une rêverie profonde. « Allons, dit-il, acceptons le sacrifice. » 10 minutes ne s'étaient pas écoulées, tandis que Henri réfléchissait. On heurta au guichet de la porte. « C'est fait, dit Gorenflot, il accepte. » Le roi entendit comme un murmure de joie et de surprise autour de lui dans le corridor. « Lisez-lui l'acte, dit une voix, qui fit tressaillir le roi à tel point qu'il regarda par les grillages de la porte, et un parchemin roulé passa de la main d'un moine dans celle de Gorenflot. Gorenflot fit péniblement lecture de cet acte au roi, dont la douleur était grande et qui cachait son front dans ses mains. « Si je refuse de signer » s'écria-t-il en larmoyant. « C'est vous perdre doublement, » repartit la voix du duc de Guise, assourdie par le capuchon. « Regardez-vous comme mort au monde, et ne forcez pas des sujets à verser le sang d'un homme qui a été leur roi. »« On ne me contraindra pas, » dit Henri. « Je l'avais prévu, » murmura le duc à sa sœur, dont le front se plissa et dont les yeux reflétèrent un sinistre dessein. « Allons, mon frère, » ajouta-t-il en s'adressant à Mayenne, « faites armer tout le monde et qu'on se prépare. »« À quoi ?» dit le roi d'un ton lamentable. « À tout, » répondit Joseph Foulon. Le désespoir du roi redoubla. « Corbleu ! » s'écria Gorenflot, « je te haïssais, Valois, mais à présent je te méprise. Allons, signe, ou tu ne périras que de ma main. »« Patientez, patientez, » dit le roi, « que je me recommande au souverain maître, que j'obtienne de lui la résignation. »« Ah, il veut réfléchir encore !» cria Gorenflot. « Qu'on lui laisse jusqu'à minuit, » dit le cardinal. « Merci, chrétien charitable, » dit le roi, dans un paroxysme de désolation. « Dieu te le rende !»« C'était réellement un cerveau affaibli, » dit le duc de Guise. « Nous servons la France en le détrônant. »« N'importe, » fit la duchesse, « tout affaibli qu'il est, j'aurais du plaisir à le tondre. » Pendant ce dialogue, Gorenflot, les bras croisés, accablait Henri des injures les plus violentes et lui racontait tous ses débordements. Tout à coup, un bruit sourd retentit en dehors du couvent. « Silence !» cria la voix du duc de Guise. Le plus profond silence s'établit. On distingua bientôt des coups frappés fortement et à intervalles égaux sur la porte sonore de l'abbaye. Mayenne courut assez vite que le lui permettait son embonpoint. « Mes frères, dit-il, une troupe de gens armés se porte au-devant du portail. »« On vient le chercher !» dit la duchesse. « Raison de plus pour qu'il signe vite, » dit le cardinal. « Signe, Valois, signe !» cria Gorenflot d'une voix de tonnerre. « Vous m'avez donné jusqu'à minuit, » dit pitoyablement le roi. « Oh, tu te ravises parce que tu crois être secouru. »« Sans doute, j'ai une chance. »« Pour mourir, s'il ne signe pas aussitôt, s'écria la voix aigre et impérieuse de la duchesse. Gorenflot saisit le poignet du roi et lui offrit une plume. Le bruit redoublait au dehors. Une nouvelle troupe, vint dire un moine, elle entoure le parvis et le cerne à gauche. Allons! Crièrent impatiemment Mayenne et la duchesse. Le roi trempa la plume dans l'encre. Les Suisses! Accourut dire Foulon. Ils envahissent le cimetière à droite. Toute l'abbaye est cernée, présentement. Eh bien, nous nous défendrons, répliqua résolument Mayenne. Avec un otage comme celui-là, une place n'est jamais prise à discrétion. Il l'a signé! Hurla Gorenflot, en arrachant le papier des mains de Henri, qui, abattu, enfouit sa tête dans son capuchon et son capuchon dans ses deux bras. Alors, nous sommes rois, dit le cardinal au duc, emporte vite ce précieux papier. Le roi, dans son accès de douleur, renversa la petite lampe qui seule éclairait cette scène, mais le duc de Guise tenait déjà le parchemin. Que faire? Que faire? Vint demander un moine, sous le froc duquel se dessinait un gentilhomme bien complet, bien armé. Crillon arrive avec ses gardes françaises et menace de briser les portes. Écoutez! « Au nom du roi !» criait la voix puissante de Crillon. « Bon, il n'y a plus de roi !» répliqua Gorenflot par une fenêtre. « Qui dit cela, Marot ?» répondit Crillon. « Moi, moi, moi !» fit Gorenflot dans les ténèbres, avec un orgueil des plus provocateurs. « Comptage de m'apercevoir, c'est drôle, et de lui planter quelques balles dans le ventre !» dit Crillon. Et Gorenflot, voyant les gardes apprêter leurs armes, fit le plongeon aussitôt et retomba sur son derrière au milieu de la cellule. « Enfoncez la porte, monsieur Crillon !» dit au milieu du silence général une voix qui fit dresser les cheveux à tous les moines, faux et vrais, qui attendaient dans le corridor. Cette voix était celle d'un homme qui, sorti des rangs, s'était avancé jusqu'aux marches de l'abbaye. « Voilà, sire, répliqua Crillon en déchargeant dans la voie principale un vigoureux coup de hache. Les murs en gémirent. « Que veut-on ? » dit le prieur, paraissant tout tremblant à la fenêtre. « Ah, c'est vous, messire Foulon, dit la même voix, hautaine et calme. « Rendez-moi donc mon fou qui est allé passer la nuit dans une de vos cellules. J'ai besoin de Chicot, je m'ennuie au Louvre. » « Et moi, je m'amuse joliment, va, mon fils !» répliqua Chicot, se dégageant de son capuchon et fendant la foule des moines qui s'écartèrent dans un hurlement d'effroi. À ce moment, le duc de Guise, qui s'était fait apporter une lampe, lisait au bas de l'acte la signature, encore fraîche, obtenue avec tant de peine, « Chicot premier ». Moi, Chicot premier !» s'écria-t-il, « mille damnations !» « Allons, dit le cardinal, nous sommes perdus, fuyons. »« Ah !» fit Chicot, en distribuant à Gorenflot presque évanoui des coups de la corde qu'il portait à sa ceinture. « Ah !»